Alors, notre programme d'aujourd'hui devrait être les chapitres 4 et 5, mais on a un petit peu de retard, donc on va essayer de finir aussi le 3. Je vais peut-être commencer par répondre à la question de la semaine dernière, que j'ai promis de chercher dans mes notes. En fait, c'était pas dans mes notes, c'était déjà noté dans le livre, et c'était pas dans mes notes. Bon. Alors, moi, je n'ai pas étudié le grec, hein, donc c'est pas moi qui vous le lis, hein, mais cette citation de Aristote, qui se trouve donc en dehors du texte, hein, c'est ce qu'on appelle une exergue pour donner une information, une note, une couleur, quelque chose qui est à expliquer par la suite, hein, une sorte de mystère. Pourquoi une citation d'Aristote ou de quelqu'un d'autre peut être mise comme ça en façade, un peu comme au-dessus de la porte aussi, si vous voulez. Donc on l'appelle exergue ou épigraphe. Et cette épigraphe signifie que celui qui l'a fait l'a aussi détruit. Celui qui a fait quelque chose l'a également fait disparaître. Il y a plusieurs façons de lire hein, le grec et d'essayer de le traduire en français. Celui qui crée quelque chose et ensuite le détruit. Ou bien c'est celui qui a créé quelque chose qui ensuite le détruit. C'est la forme, disons, convenue hein, de cette lecture d'Aristote. Alors qu'est-ce que ça veut dire hein? Sens du verbe détruire, mais dans détruire il y a un aspect matériel, un aspect visible ou violent aussi, qui n'est pas dans le verbe grec qui semble-t-il est utilisé ici avec plutôt le sens de faire disparaître, donc un peu comme un magicien qui fait disparaître un lapin après l'avoir sorti de son chapeau. Donc on sort un lapin du chapeau et ensuite on le fait disparaître. Hop. Alors bien sûr ça donne à celui, hein, donc l'acteur des deux opérations, ça lui donne un caractère extrêmement puissant, presque magique. Alors je pense qu'on peut appliquer cette phrase comme Queneau nous le suggère. On peut l'appliquer au livre lui-même, hein, puisque étant mis au-dessus de la porte, quand vous entrez dans le livre, ça veut dire attention, cette information est importante pour celui qui entre dans ce livre. Et on peut imaginer que quelqu'un, enfin un écrivain en général, réfléchit bien à la valeur de ce qu'il peut mettre en épigraphe, on dit également donc exergue. Bonjour. Exergue qui vient également du grec hein, et qui veut dire en dehors de l'œuvre, à côté de l'œuvre. Et donc les écrivains en général réfléchissent bien aux exergues qu'ils choisissent. Et Queneau en particulier est extrêmement attentif au sens des mots, à leur valeur historique, hein, à leur histoire, à leur étymologie, doit avoir bien réfléchi à cette exergue. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire précisément pour le livre ? Eh bien, je vous donne rendez-vous plutôt au dernier cours, où nous essayerons, avec toute la connaissance du livre que nous aurons, de donner un sens plus complet, ou en tout cas plus appliqué, hein, appliqué à Zazie dans le métro, appliqué à donner un sens. Un sens mystérieux, un sens spécial, un sens secret, soit au livre Zazie dans le métro, soit à la phrase d'Aristote. Parce que des fois, ça se retourne. C'est-à-dire que le livre qu'on a lu donne un sens différent à la phrase qui était en épigraphe. Une sorte de influence à l'envers. Historiquement, bien sûr, il y a beaucoup de siècles qui sépare Aristote et Quevedo. Voilà, donc on essaiera de comprendre un peu mieux à la fin. Donc le premier mot se lit O, le deuxième ça doit être plasa ou plasma, plasmas peut-être, et le troisième Ephanisen. Est-ce que quelqu'un a fait du grec ici? Bon, moi non plus. Donc, nous sommes ignorants au même titre et en espérant que les informations que j'ai pu trouver aient une quelconque valeur. En tout cas, ça semble déjà donner du sens, un certain intérêt. Connaissant, disons, jusqu'à maintenant avec vous, hein, ce qu'on a vu, les deux ou trois premiers chapitres, je me dis, tiens, qu'est-ce qui pourrait apparaître et disparaître? Alors bon, ben, il y a Zazie, hein, qui arrive dans le livre et qui repart à la fin, donc c'est vrai qu'elle apparaît et puis elle disparaît. Il y a également le métro qui rentre et qui sort de sous la terre, alors il y a un côté magique, hein, pour un enfant, mais je suis pas sûr que ce soit tellement intéressant jusqu'ici. Donc on verra peut-être plus tard avec une valeur philosophique ou sur l'ensemble du roman. Ça répond à peu près? Oui, ça va? Pour les autres, des questions sur cette citation d'Aristote? Ou d'autres questions donc sur les deux premiers chapitres qu'on a bien vu en détail déjà. Non, pas d'autres questions? Bon. Je vous propose de reprendre un petit peu en accélérant, hein, les chapitres 2 et 3. On s'était arrêté, je crois, après les chansons, la chanson paillarde et la chanson du caporal Conconcon, bon, qui étaient des choses extrêmement vulgaires, des chansons paillardes, donc, c'est-à-dire qu'on chante quand on a beaucoup bu, et que l'on a plutôt des attirances érotiques ou sexuelles et qui vont se permettre, entre garçons, de s'amuser. Je vous propose de reprendre à la page 28 avec un 27 avec un événement important. Nous avons vu que Gabriel est donc quelqu'un d'assez grand et d'assez fort, même s'il a un aspect assez gentil et un caractère peut-être timide aussi, et de temps en temps il peut s'exprimer avec violence. C'est ce qui va arriver lorsqu'il est un peu poussé, un peu énervé par les personnes en présence, en particulier Turandot, le patron du café, qui est venu protester contre le langage et peut-être le danger que représente Zazie, petite fille de 13 ans, pour sa maison, son café, son établissement. Alors Gabriel se met en colère, il dit vers le milieu de la page 27, il commence à m'agacer, et finalement Gabriel se met à crier, hein, on peut lire au milieu de la page, je t'emmerde, hurle Gabriel, tu entends, je t'emmerde. Il donne un coup de poing sur la table, qui se fend à l'endroit habituel, la cage va au tapis, suivi dans sa chute par la bouteille de grenadine, le flacon de kirsch, les petits verres, l'attirail manucure, la verdure se plaint avec brutalité, le sirop coule sur la maroquinerie, Gabriel pousse un cri de désespoir et plonge pour ramasser l'objet pollué. Ce faisant, il fout sa chaise par terre, une porte s'ouvre. Évidemment, tout ce bruit a réveillé Zazie, qui était allée se coucher discrètement d'ailleurs. Hein. Elle est partie se coucher juste avant l'arrivée de Turandot. Alors ce petit paragraphe montre bien un autre style, un autre choix de style de Queneau, qui est le style de l'enchaînement ou de l'énumération, avec plusieurs actions rapides enchaînées par des virgules. Et on voit bien dans chaque partie de la phrase un élément qui tombe, hein, et qui entraîne un autre élément dans la chute de la table. Donc il a tapé sur la table qui s'est fendue et qui a donc été déséquilibrée ou cassée. La cage dans laquelle il y a le perroquet tombe également par terre, hein, au tapis. Au tapis, ça veut dire tomber par terre. Suivi dans sa chute par la bouteille de grenadine. Ça, c'est l'élément peut-être le plus embêtant, hein, parce que la bouteille de grenadine, c'est-à-dire un sirop de sucre très épais et qui va se répandre sur la petite trousse de manucure. Une petite trousse de manucure, il y a beaucoup de possibilités, mais disons quelque chose qui est de la taille d'une boîte de lunettes, hein, avec dedans pince à épiler, ciseaux, etc. C'est la trousse de manucure. Donc ça tombe par terre et la grenadine va se renverser dessus. Évidemment, Gabriel l'attrape tout de suite parce que on a vu qu'il y tient, il est attentionné, attentif à l'entretien de ses ongles et de ses mains. Et il en sera tout à fait choqué, au point d'ailleurs d'oublier le problème principal. Donc, à la page suivante, Gabriel dit, c'est à la deuxième ligne, « Merde !» qu'il murmure, « Elle est foutue !»« Je t'en offrirai une autre, » dit doucement Marceline, et on va avoir une autre forme de succession, hein, puisque j'ai parlé là tout à l'heure de succession, énumération avec des virgules, on va avoir maintenant une succession avec des points d'interrogation. Succession de matière. Pour remplacer la trousse de manucure abîmée, Marceline propose d'en offrir une autre tout de suite, hein, ça veut dire qu'il y tient beaucoup, et elle va proposer successivement plusieurs matières, toutes de cuir, d'animaux différents. Le boxcalf, le galuchat, le cuir de Russie et le croco. Alors bien sûr, cette succession se fait dans ce qu'on appelle une progression. Hein, du point de vue même des figures de style, ça s'appelle une progression. Alors, vous connaissez la progression célèbre dans la pièce Cyrano de Bergerac, hein, à propos du nez de Cyrano. Ce n'est pas un nez, un cap, une péninsule. Hein, on va vers quelque chose de plus en plus grand, de plus en plus gros. Ici, on va vers quelque chose de plus en plus luxueux et de plus en plus cher. Le boxcalf, je ne sais pas si vous connaissez, si ce terme est encore utilisé en France, je ne suis même pas sûr. Quant au Japon, je ne sais pas. Mais il s'agit d'une peau assez fine, plutôt de veau ou de mouton, je crois. Où est-ce que j'ai mis ça? En tout cas, un animal jeune, un bébé, hein, donc du veau, par exemple. C'est un cuir fin qui peut être assez joli, mais qui n'est pas très cher. Le galuchat, c'est quelque chose de beaucoup plus original, c'est un cuir de poisson, soit de la raie, soit du requin, avec une sorte de grain, hein, comme des grains blancs, un peu, blanc crème, hein, donc assez luxueux déjà, donc galucha. Un petit peu plus cher, le cuir de Russie, qui est lui un cuir de chèvre ou de mouton, mais qui est très travaillé. Vous savez, on fait baigner la peau dans des liquides avec des plantes, des extraits d'arbres, etc. Bon, le cuir de Russie est fabriqué donc pour être très 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 solide. Par exemple, les reliures de livres. Les livres reliés de façon luxueuse, qu'on peut trouver dans des bibliothèques, bien sûr. Je ne sais pas s'il reste des reliures de cuir à la médiathèque de l'Institut, mais chez des gens qui collectionnent des éditions anciennes. Et évidemment, ça peut tenir plusieurs siècles, hein, plusieurs siècles de qualité. Et enfin, le croco, évidemment crocodile, qui est considéré comme le cuir le plus cher, lorsqu'il est bien préparé, évidemment. Vous savez, par exemple, sans doute, en tant que japonais et japonaise, que la marque Hermès réserve les meilleurs cuirs de crocodile du monde, qui ne peuvent pas être achetés par d'autres marques, qui sont réservés par Hermès, pour la fabrication de sacs, qui coûtent évidemment très 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 cher, dû au prix de la matière première, hein, déjà, avant même d'être nommé Hermès. Pardon de faire la publicité, hein, pour une marque française. Au passage, je vais demander un peu d'argent à Hermès pour mon cours. Un sponsor. Bon, alors, cette progression est une sorte également de ce qu'on appelle la digression, c'est-à-dire changer de sujet. Changer de sujet, partir dans une autre direction, une sorte de parenthèse aussi, et cette parenthèse se ferme juste après, évidemment, parce qu'il y a Turandot, il y a Zazie, il y a d'autres choses à faire. Et pour le lecteur, c'est finalement une digression, un épisode qui permet de comprendre l'attachement de Gabriel à certains détails qui sont plutôt de nature féminine. On va dire le côté manucure, on va découvrir des petits détails comme ça qui petit à petit construisent la personnalité de Gabriel. On ferme la parenthèse, on revient dans l'action principale et évidemment c'est le dialogue entre Zazie, Gabriel, Turandot, et au milieu de la page 28, Zazie a demandé qui c'était celui-là, en désignant Turandot, et on lui répond que c'est le patron du bistrot d'en bas, de la cave, exactement, dit Turandot, hein, vous avez le exactement EXA qui a été transformé pour être plus sonore, hein. Vous aussi, vous pouvez le dire en exactement, ça marche très bien. Et Zazie va tout de suite interpréter ce qu'elle entend, c'est-à-dire le nom du café La Cave, dans un sens tout à fait contemporain de ce qu'elle a pu entendre, hein, dans sa ville de province. Et La Cave, ça lui fait penser à Saint-Germain-des-Prés. Alors Saint-Germain-des-Prés, vers le bas de la page, va se retrouver écrit à la façon phonétique, que nous connaissons maintenant bien depuis le premier mot, hein, d'où qui pue donc tant. Alors Gabriel dit que Turandot gagne bien sa vie, et Zazie répond « Mais à Saint-Germain-des-Prés, qu'est-ce qu'il se sucrerait ? C'est dans tous les journaux. » Alors se sucrer, ça veut dire gagner beaucoup d'argent, se servir, hein, aussi de l'argent qui tombe, qui coule, et c'est dans tous les journaux. Ça veut dire que, en effet, ces informations sont publiées dans des journaux auxquels Zazie a pu avoir accès. Alors bien sûr, le livre écrit en 59, commencé en 57 ou 58 ou un peu avant, est tout à fait contemporain de la vogue, de la popularité de Saint-Germain-des-Prés, du quartier donc parisien de Saint-Germain-des-Prés, comme quartier à la fois et d'abord, disons, quartier des intellectuels, déjà depuis le XVIIe ou le XVIIIe siècle, pas très loin du quartier latin, et déjà populaire par des cafés, comme le Procope, par exemple, hein, qui se trouve encore dans ce quartier. Et bien sûr, après la Seconde Guerre mondiale, la volonté de s'amuser, hein, des jeunes gens, l'arrivée du jazz, mais aussi de technologies modernes pour l'écoute du son, donc phonogramme, c'est-à-dire à l'époque tourne-disque, hein, on dit en français aussi tourne-disque, sur lequel on pose un disque qui tourne et avec, voilà, non, je le dis parce qu'il y a des gens assez jeunes encore qui n'ont peut-être pas vu de tourne-disque même quand ils étaient petits, hein. Bon, maintenant on a des vintage, hein, avec des DJ, disques jockey qui aiment bien réutiliser ces matériels anciens, mais aussi beaucoup de jeunes gens qui ne les connaissent plus du tout. Bon, et puis également ce qu'on appelle le magnétophone, c'est-à-dire un gros appareil avec des bandes magnétiques, hein, qui tournent et qui permettent aussi d'enregistrer le son, ce qui donne la possibilité de l'industrie de la radio, du disque, du cinéma, qu'est-ce que j'ai oublié encore, des salles de concert, hein, donc beaucoup de choses qui sont vraiment modernes, juste après la guerre, qui existaient déjà avant, mais qui sont de plus en plus populaires, et principalement maintenant du côté des jeunes gens. Ce sont ces jeunes gens qui, dans les années 50, vont envahir en quelque sorte le quartier intellectuel de Saint-Germain-des-Prés pour le transformer en quartier à la mode. Alors bon, vous connaissez peut-être déjà cette histoire, le jazz, Boris Vian, Jean-Paul Sartre, Juliette Gréco, hein, autant de facettes ou de personnalités importantes de ce quartier. Et je crois qu'au Japon, on a été sensible dès les années 50-60 à la transformation de ce quartier, et il y a eu en quelque sorte des passeurs, hein, des intermédiaires japonais pour populariser aussi la chanson française sous le nom de chanson, justement, au Japon. Donc pour les lecteurs de l'époque, c'est évidemment un clin d'œil tout à fait évident qui ne pose pas de difficultés et qui mériterait peut-être une petite note, hein, pour les jeunes lecteurs d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'explication à Saint-Germain-des-Prés en phonétique. C'est un peu dommage. À la page 29, c'est la fin du chapitre. En bas de la page, deux tiers de la page, donc Zazie retourne se coucher, hein, Zazie sort par une porte, les visiteurs du soir par une autre, donc mouvement de porte, comme dans le théâtre, je vous avais dit la semaine dernière un peu le genre du vaudeville, c'est-à-dire un théâtre léger, qu'on appelle aussi théâtre de boulevard, des pièces qui reposent souvent sur le triangle du mari, de la femme et de son amant, ou un triangle proche, hein, de ce genre, et qui a été illustré, très popularisé en France par des auteurs comme Labiche ou Feydeau. Labiche et Feydeau, qui sont des auteurs donc de la deuxième moitié du XIXe siècle et du début du XXe siècle pour Feydeau, qui était plus jeune, et qui ont écrit chacun des dizaines de pièces très populaires à l'époque, où on retrouve un peu ces mêmes clichés de la vie bourgeoise aussi. En même temps que cette sorte d'allusion à un genre de texte, vaudeville, il y a la présence des mots dans cette phrase, les visiteurs du soir, qui évidemment est le titre d'un film que vous connaissez sans doute, film de Marcel Carné, avec les textes de Prévert, je crois les deux frères Prévert ont participé à la création des textes, et qui illustre ce cinéma qu'on appelle réalisme poétique. Le réalisme poétique dont Raymond Queneau est très proche par les fréquentations avant la guerre, pendant la guerre, la proximité du surréalisme également pour les frères Prévert et pour Carné. Donc c'est une sorte de petit clin d'œil dans le texte, Les visiteurs du soir, qui correspond en effet à la sortie de Turandot, qui est aussi un visiteur du soir. Dans notre texte. Après ces mouvements, Gabriel se retrouve tout seul, il se prépare et il s'en va, il descend l'escalier, mais ce qu'on appelle une chute d'histoire, également tout à fait dans le genre du vaudeville, Marceline l'appelle dans l'escalier pour lui dire qu'il a oublié quelque chose et c'est son rouge à lèvres. Donc l'information n'est pas expliquée, n'est pas soulignée, n'est pas transformée en plaisanterie, il n'y a pas de commentaire, mais justement, ça se passe de commentaire. Puisque nous savons que Gabriel est un homme, qu'il est en plus grand et fort, et il travaille la nuit, on ne sait pas encore à quoi. Et au moment de partir travailler, on lui dit qu'il a oublié son rouge à lèvres. Oh, quelle information! Quel étonnement! C'est un étonnement, et là c'est par hasard la fin de la page, donc quand vous tournez la page, eh bien, on passe à autre chose. Bien sûr, c'est un effet, ce qu'on appelle un effet calculé, un effet de dramaturgie, comme au théâtre, et évidemment ici d'une dramaturgie comique. On pourrait dire même burlesque. Burlesque, c'est-à-dire avec des mouvements qui sont très drôles, très populaires, faciles à comprendre. On passe au chapitre 3. Qui va se dérouler principalement dans la rue, dans les rues, et dans lequel on va voir Zazie donc sortir toute seule, et on commence par Zazie toute seule dans la maison. Alors depuis le début du texte, du chapitre 1, nous nous sommes habitués à des dialogues. Beaucoup de dialogues, du langage parlé, rapide, quelques commentaires, de temps en temps un petit paragraphe d'explication, mais dans l'ensemble, quelque chose de très rapide et de très théâtral. Le chapitre 3, on le voit même par la forme du texte, sur ces deux pages, est un ensemble de blocs, de paragraphes, donc de narration. C'est comme un changement de style. Et on peut expliquer ce changement de style, je crois, assez simplement. Zazie est seule. Comme elle est seule, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de personne à qui parler, sauf parfois quand Zazie se parle à elle-même, se parle tout seule, sous la forme du monologue ou du monologue court. Alors, on a déjà commenté au premier cours le début de ce chapitre 3 avec le petit cabinet de toilette que Marceline avait installé pour que, selon l'idée de Marceline, Zazie se trouve comme à la maison, dans sa campagne où il n'y a pas l'eau courante. Alors, c'est ce qu'on appelle en français l'eau courante. L'eau courante, et qui signifie bien sûr qu'on a installé tout un système d'eau qui permet, en ouvrant le robinet, d'avoir de l'eau. Évidemment, pour nous, c'est extrêmement naturel, mais en réalité, ça représente de très très gros travaux, aménagements de la ville. Et puis aujourd'hui, avec les conditions sanitaires encore plus difficiles, et c'est une grande partie des impôts hein, que nous payons aussi. Et parfois, on se demande mais pourquoi on paye des impôts. Ben oui, on paye des impôts pour avoir de l'eau, pour avoir des routes, pour avoir de l'électricité, etc. Cette époque est bien sûr une époque de transformation de la France, on l'a déjà souligné, et à ce moment, Paris et les grandes villes sont déjà entièrement, ou à peu près entièrement, installées en eau courante. Elles l'étaient déjà avant la guerre, mais des bombardements ont pu, des bombardements ou des sabotages ont pu détruire ces installations. Et puis, bien sûr, les continuer d'abord dans les banlieues autour des grandes villes, puis dans les petites villes, etc. Mais dans les campagnes, dans les petits villages et dans les petits hameaux qui sont isolés, il n'y a bien sûr pas d'eau courante. Donc on continue comme avant, comme depuis la nuit des temps, à chercher de l'eau à la rivière ou un petit peu plus moderne, le puits. Hein, le puits, c'est quand même déjà une grande invention des temps anciens. Mais, alors, évidemment, Zazie n'est pas aussi, comment on pourrait dire, arriérée, hein, arriérée, c'est-à-dire d'une région totalement pas moderne du tout, et c'est plutôt l'erreur de Marceline. L'image que Marceline peut avoir de l'endroit d'où vient Zazie. Alors, donc Zazie n'utilise pas beaucoup ce matériel. Elle se met un tout petit peu d'eau et un coup de peigne, un seul, hein, donc coiffure très simple, et elle se promène dans l'appartement. Ça a l'air beaucoup plus intéressant d'essayer les portes. On voit ici des portes qui servent à autre chose. Les portes ne servent plus à entrer et sortir d'une pièce, mais elles servent à un personnage pour passer d'une pièce à une autre dans une exploration de la maison. C'est sûr quelque chose que les enfants aiment beaucoup faire. Et elle découvre, on voit en haut de la page 31, le but de son excursion. Vous pouvez entendre excursion, bien sûr. Les WC. Alors, WC, écrit ici encore en phonétique, qui remplace les lettres WC, Water Closet, et qui signifie, bien sûr, les toilettes, Otearai, en japonais aussi d'ailleurs, hein, on ne dit pas exactement ce qu'on fait dans cette pièce, puisqu'il s'agit simplement de se laver les mains. Donc les WC. Et ces WC sont à l'anglaise, c'est-à-dire avec un siège. Vous avez une petite note. En français, on s'est habitué, disons, à deux expressions. Et à l'anglaise n'existe plus parce que ce sont les WC normaux, les toilettes normales. Mais il y a encore l'expression à la turque. Pour des lieux, sans doute dans des lieux publics, où on n'a pas beaucoup d'argent hein, pour installer des vraies toilettes, ou bien des lieux où il y a beaucoup de passages et où l'entretien pose des difficultés, donc on met des toilettes avec, disons, une sorte de dalle, un trou et un emplacement pour les pieds, à gauche et à droite. Alors finalement, c'est un peu comme des toilettes classiques japonaises aussi, hein, d'avant les sièges et d'avant le washlet, évidemment, dont on a parlé l'autre jour. Bon. Elle reste longtemps dans les toilettes, elle est très contente de voir cet endroit très propre, ripolliné, hein, vous avez le mot ripolliné à la dixième ligne à peu près, qui veut dire peint, hein, peinture de ripolin. Alors Ripollin, je crois que c'était une marque de peinture. Et donc ici, sans la majuscule, ripolliné transformé en adjectif, on a un phénomène de langage aussi que Queneau connaît bien, qui est la transformation d'un nom propre, nom d'une personne, nom d'une marque, nom d'un lieu aussi possible, en nom commun, en mot commun, en verbe commun, etc. Donc Ripollin. Vous connaissez d'autres exemples.
Frigidaire.
Voilà, Frigidaire, qui était d'abord une marque de réfrigérateur et qui est devenu le nom commun, un Frigidaire. Ou bien le système de ramassage des poubelles de Paris. Le mot poubelle vient du nom d'un préfet de Paris, de la fin du 19e siècle, je crois, qui s'appelait Poubelle. Donc à l'époque, le mot n'avait pas de connotation sale, hein, comme peut l'avoir une poubelle. Il s'appelait Poubelle, mais il a créé ce réseau de ramassage des ordures ménagères avec des boîtes identiques que les gens pouvaient sortir sur la rue. Et évidemment, ça a eu un succès extrêmement important et une très grande amélioration pour la propreté, la qualité des villes. Alors, je ne sais pas si Paris était la première ville à le faire, hein, je ne pense pas, mais le nom du préfet a donné le nom au système et à la boîte. Donc voilà pour le ripolliné. Et puis, un petit peu plus bas dans le même paragraphe, Zazie attend, mais rien ne semble avoir bougé, c'est la maison de la Belle au bois dormant. Zazie se rassoit pour se raconter le conte en question, en y intercalant des gros plans d'acteurs célèbres. Bien sûr, les enfants apprennent à l'école ou à la maison les contes populaires, et parmi ces contes populaires, souvent dans la version très connue de Charles Perrault, ou bien des frères Grimm, que vous connaissez sans doute tous les deux, Perrault et Grimm, l'histoire de la Belle au bois dormant. Cette histoire est bien connue, c'est une petite fille qui est la fille d'un roi, bien sûr, qui est gratifiée de tous les dons par des fées, sauf une vieille fée qu'on avait oublié d'inviter et qui jette un sort en disant qu'elle mourra à l'âge de 15 ans. Alors c'est un code dans le monde des fées, dans le monde magique, on ne peut pas effacer, annuler ce qu'une fée ou un magicien a fait. Mais on peut faire un autre acte magique qui vient transformer le premier. Donc, la mauvaise fée a dit que la belle mourra à l'âge de 15 ans en se piquant sur un rouet, c'est-à-dire une sorte de machine que l'on fait tourner pour préparer le fil, hein, qui sert ensuite à fabriquer des vêtements. Et une autre fée va transformer le sort, le mauvais sort de la fée méchante, en disant que elle ne mourra pas, elle s'endormira pour 100 ans. Alors, le roi fait interdire tous les appareils qui pourraient faire qu'elle se pique, mais malheureusement, il en reste un, hein, d'une vieille dame qui était sourde, qui n'avait pas entendu l'appel du roi, parce qu'il n'y avait pas de journaux. Donc l'appel du roi, c'était avec un tambour, hein, qui crie devant les maisons et dans les villages. Bref, elle se pique et elle ne meurt pas, et elle tombe dans le sommeil. Et là, on découvre quelque chose qu'on avait oublié, c'est que dans 100 ans, quand elle va se réveiller, cette pauvre princesse, qu'est-ce qu'il va y avoir autour d'elle? Eh bien, rien qu'elle ne connaît. Donc, une autre fée décide d'immobiliser, avec sa petite baguette, hein, tout ce qu'il y a autour. Donc, les gens du château, Même le feu, ce qui est en train de cuire dans la cuisine, etc., tout s'immobilise pour 100 ans. Et c'est donc cette image extrêmement belle, féerique, que vous avez aussi pu voir dans des films de Disney par exemple, ces images qui vont rester dans la tête des enfants. Et dans cette maison nouvelle, où tout est inconnu encore, et personne n'est réveillé, comme dans le château de la Belle au Bois Dormant. Alors, une façon de moderniser cette histoire, cette façon de se raconter l'histoire, c'est d'y ajouter des gros plans, donc un peu comme au cinéma. Gros plan, c'est un cadrage très proche, où on voit que la tête de l'acteur ou de l'actrice, et ici, des acteurs célèbres. Donc c'est le conte ancien avec la façon, disons, cinématographique moderne. On peut penser à des films un peu magiques, un peu féeriques, par exemple de Jean Cocteau, où on a ce côté à la fois de la magie et en même temps de l'art du cinéma. Je crois que La Belle et la Bête ou Orphée, par exemple, ont très très bien montré ce talent de Jean Cocteau. Enfin, voilà Zazie dehors, dans la rue, et aussitôt, à la page 32, rattrapée par Turandot, qui l'a vu sortir. Alors, je pense que vous comprenez l'essentiel de ce qui se passe, et je voudrais insister sur une expression, aux deux tiers de la page 32, après que Zazie a crié « au secours », on a un commentaire. Ce cri ne manque pas d'attirer l'attention des ménagères et des citoyens présents. Ils abandonnent leurs occupations ou inoccupations personnelles pour s'intéresser à l'incident. Le résultat est assez satisfaisant. C'est Zazie qui juge comme ça. Et donc, Zazie en remet, c'est-à-dire elle ajoute, elle va dans le même sens, en criant « Je veux pas aller avec le monsieur, je ne connais pas le monsieur, je veux pas aller avec le monsieur, etc. » Ce qui m'intéresse ici, c'est l'expression « Ce cri ne manque pas d'attirer l'attention. » Qu'est-ce que ça veut dire « ne manque pas » ? Si on enlève ce « ne manque pas », on peut dire « Ce cri attire l'attention. » Donc les passants qui sont là sont attirés par ce cri et ils s'intéressent à cette petite fille. On comprend la situation, tout à fait normale. Mais qu'est-ce que ça veut dire « ne manque pas » ? Eh bien, ça veut dire que, automatiquement, comme Zazie l'a pensé, l'a prévu, l'a prémédité, on peut le dire dans ce sens avec le verbe qu'on utilise, par exemple, pour les crimes, un crime est prémédité, ça veut dire bien préparé, bien pensé par la personne. Alors je me suis demandé comment on peut décomposer psychologiquement, si vous voulez, l'action de Zazie. Premièrement, Zazie considère que Turandot la gêne. Elle veut se promener toute seule, tranquillement. Donc Turandot la gêne, la dérange, elle ne veut pas être dérangée par lui. Et par ailleurs, même si elle ne connaît pas Paris, elle ne pense pas qu'elle peut se perdre. Bon, ça c'est peut-être un peu sa bêtise d'enfant. Elle ne sait pas qu'elle peut se perdre. Deuxièmement, elle ne pense pas que Turandot souhaite éviter qu'elle s'enfuit ou qu'elle se perde. Elle ne pense pas que Turandot veut faire quelque chose de bien. Elle pense seulement que Turandot la gêne, la dérange. Troisièmement, elle ne crie pas parce qu'elle a peur. Elle n'a pas peur dans cette situation. Mais elle crie parce qu'elle sait que si elle crie, elle va attirer l'attention des gens. C'est donc dans ce but qu'elle crie, et alors elle pourra jouer le rôle, jouer le rôle de celle qui accuse un homme d'être un vicieux. Un vicieux, un pervers, un satyre. Thème dont on a déjà parlé l'autre jour. Et enfin, numéro 5, comme il sera accusé, Turandot sera obligé de la lâcher et de s'occuper de l'accusation sous sa forme publique, puisque ça deviendra une affaire publique. Alors on peut dire que cet enchaînement de pensées de Zazie est vraiment ce que j'appelle ici une préméditation. Hein, en une petite seconde, hein, elle a pensé tout ça et elle a choisi de faire comme ça. Mais est-ce qu'elle a vraiment eu le temps de penser tout ça et de choisir, ou bien est-ce qu'elle a seulement, en quelque sorte, choisi un scénario, une sorte de stéréotype qu'elle a pu lire dans des journaux, entendre à la radio, ou bien des recommandations qu'on lui a faites à l'école ou dans la famille. Je crois que tous les parents disent à leurs enfants, il ne faut pas suivre un inconnu qui te donne des bonbons ou n'importe quoi, hein, par exemple. Ça, c'est un scénario. Alors, dans cette situation, Zazie ne veut pas rentrer à la maison, donc elle attrape le scénario intitulé « Satire » et elle appuie sur le bouton en criant au satyre. Alors évidemment, cet enchaînement de pensées ou ce choix de scénario illustre tout à fait ce que disait Gabriel, je crois, à la page 22 qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire au premier tiers de la page 22, Gabriel dit à Marceline, tu vois comment ça résonne déjà bien une mouflette de cet âge. Comment ça résonne déjà bien. Alors bien sûr, c'est raisonner, le raisonnement, la pensée organisée. Ici, on en a donc l'illustration très détaillée et un peu cruelle pour Turandot, qui se trouve accusé publiquement d'être un satyre. Alors, comment peut évoluer ce scénario? On a plusieurs possibilités. Ici, disons que ce scénario va être en quelque sorte connecté, articulé avec un autre qui est en haut de la page 33, à la sixième, septième ligne. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Demande une dame alléchée. Alors après l'expression tout à l'heure, hein, ne manque pas, hein, le verbe ne pas manquer de, etc. On voit ici l'utilisation de cet adjectif alléché. Alléché, ça veut dire attiré. Attiré par quelque chose de irrésistible, hein, on ne peut pas résister. Et d'autres personnes qui se sont rapprochées aussi, je crois, sont dans la même situation. C'est-à-dire, bien sûr, ils souhaitent savoir si un enfant est en danger, hein, et éventuellement sauver un enfant. Tout le monde voudrait sauver un enfant, hein, rendre service comme ça. Mais allécher n'a pas exactement ce sens. Allécher signifie qu'on est attiré par quelque chose qui fait très plaisir, plutôt. Alors, qu'est-ce qui peut faire plaisir? C'est pas que l'enfant soit agressé par un satyre. Ce qui peut faire plaisir, c'est d'être témoin d'un scandale. Être témoin d'un scandale, c'est un grand plaisir pour beaucoup de gens. Ouais, beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps à la fenêtre, à la porte, dans la rue, à essayer de guetter, hein, ce qui pourrait être scandaleux pour s'en amuser, pour s'en exciter, parce que sinon, ma foi, la vie est bien ennuyeuse aussi. Donc, aussitôt qu'il y a une petite possibilité de scandale, des gens s'approchent avec la bonne conscience de venir pour sauver un enfant, bien sûr. Donc voilà cette dame alléchée. Et ce thème de cette attraction alléchante, va se développer sous la forme burlesque, un peu comme dans un film de Chaplin, où le gag se déplace de personne en personne. Et nous, lecteurs, on ne saura rien. C'est-à-dire, la petite Zazie ne veut pas dire publiquement ce qu'elle a entendu, qu'elle n'a pas entendu, elle l'invente. Et donc elle va le dire à l'oreille. Et la dame va le transmettre à quelqu'un d'autre, comme ça plusieurs personnes. Et on va passer à la page suivante. La transmission du message de bouche à oreille, c'est l'expression de bouche à oreille, avec des commentaires, bien sûr. La première dame donc se tourne vers Turandot et lui crache à la figure. Donc c'est vraiment très très fort, très violent comme réaction. Elle le traite de dégueulasse et elle lui recrache une seconde fois de nouveau dessus, en pleine poire. En pleine poire, ça veut dire dans la figure, sur le visage. Ensuite, elle transmet à quelqu'un d'autre, qui transmet à quelqu'un d'autre, avec des commentaires. On arrive à la page 34, et là, une femme dit « comprends pas ». C'est-à-dire « je ne comprends pas », en haut de la page 34. Alors, un homme lui explique. Comment on peut expliquer ? Il sort un bout de papier et il fait un dessin. Mais nous non plus, lecteurs, ça non plus, on ne peut pas le voir. Eh bien, dit la femme rêveusement. Rêveusement, c'est bon. Alors, on imagine bien sûr que Zazie a fait allusion à des choses sexuelles, un petit peu particulières, mais on ne sait pas lesquelles. Est-ce que c'est une question de position ou quoi ? Alors, pour une femme, c'est tout à fait scandaleux, elle crache sur Turandot. Pour une autre, ça la fait plutôt rêver, pas pour la petite fille, mais peut-être pour elle-même, qui aurait souhaité ce genre de soins. Et elle ajoute, et c'est pratique, en dessous, elle parle du stylo à billes. Ah, attention, c'est une sorte de digression, une petite parenthèse. Mais pour le lecteur lit après, elle parle du stylo à billes. Donc, la première pensée que le lecteur a avec cette question, et c'est pratique, bien sûr, relatif à ce que Zazie a dit. Donc, une sorte de malentendu, qu'on appelle aussi quiproquo. Quiproquo. Quiproquo, qui, pourquoi, c'est-à-dire on comprend mal. Donc le mécanisme du malentendu et du comique, bien sûr, le comique du malentendu. Alors là aussi, classique, un grand classique du théâtre populaire depuis très très longtemps. En même temps, Queneau ne rate pas une occasion de souligner un détail de la modernité. Le stylo à billes est nouveau. Il a été créé à peu près dans les années 1930, peut-être vers la fin des années 1930. Il a commencé à se vendre aux États-Unis juste après la guerre, vers 1945, avec la marque Reynolds, qui a été la première marque, disons, internationale. Et il a été très popularisé en France avec la marque BIC, B-I-C, du nom d'une personne qui s'appelait BIC, B-I-C-H. Sous la forme de stylo à billes jetable. Parce qu'en effet, ceux qui étaient vendus aux États-Unis avant sous la marque Reynolds étaient comme les stylos à plumes, hein, fountain pen, avec il faut mettre de l'encre dedans. Donc c'était un peu bizarre le fonctionnement. Et sous la marque Bic, ce sont des jetables. Donc quand la cartouche d'encre est finie, on le jette. On n'a pas besoin de garder une bouteille d'encre, un mécanisme compliqué pour remplir. Et en même temps, la nature de l'encre a changé. Vous avez l'habitude maintenant du stylo à bille. Ça ne coule pas, ça ne cuit pas, sauf cas particulier. Donc le stylo à bille est moderne et que Queneau ne le rate pas. Il le souligne, c'est-à-dire qu'une femme pose la question et c'est pratique, ça veut dire qu'elle ne connaît pas encore le stylo à bille, elle en a entendu parler et d'un seul coup elle en voit un, quelqu'un dessine sur un « Ah ouais, c'est pratique, dis donc, moi aussi je pourrais en avoir un. Bon. » On ferme la parenthèse et la digression. Alors, en quelque sorte, le gag se transmet de personne en personne, et les deux personnages principaux, Zazie d'un côté, Turandot de l'autre, vont s'enfuir. Donc, ils ont provoqué une sorte d'attroupement, de groupe dans la rue, de gens qui parlent ensemble de cette situation scandaleuse, et un peu comme au rugby, vous savez, quand il y a la mêlée comme ça, d'un seul coup, on fait sortir le ballon par un petit côté et il y a un ou deux joueurs qui s'en vont et qui quittent la mêlée. Ça s'appelle la mêlée. On est ici, évidemment, dans une mêlée. Alors, c'est d'abord Turandot et la sortie de Turandot va se continuer maintenant jusqu'à la fin du chapitre 3, c'est-à-dire jusqu'à la page 42, et le chapitre 4 va commencer sur la fuite de Zazie. C'est-à-dire, on revient en arrière, au moment où Turandot s'échappe, et quelques secondes après, Zazie aussi s'échappera. Et ça sera le début du chapitre 4. Alors, si on revient à la page 34, Turandot réussit à partir. Il revient chez lui tout à fait terrorisé. Il avale un ou deux verres de vin. Il commence à raconter ce qui lui est arrivé. Et en bas de la page 35, enfin, plusieurs minutes après, donc, Mado Petit Pied, lui dit... Et vous croyez pas qu'il faudrait avertir les autres ? Dit cela à Turandot, qui aussitôt monte prévenir Marceline et Gabriel. Alors Marceline vérifie, et tout va très vite, tout ça va très vite. On a vu tout à l'heure le mot exactement. Ici, on va voir donc à la quatrième ligne, exact, c'est-à-dire c'est exact. La petite est partie, et là encore, sous forme très rapide. La gosse a mis les bouts. Mais est-ce que vous comprenez la gosse a mis les bouts? La gosse. Ça, c'est le nom commun, gosse, que l'on utilise pour une fille, donc au féminin, le gosse, la gosse, a mis les bouts sous forme phonétique, mais une expression que vous ne connaissez peut-être pas, qui est l'expression « mettre les bouts ». Et qui veut dire « partir, s'enfuir rapidement ». C'est une expression argotique qui vient peut-être d'un métier, mais je n'en connais pas l'origine, je ne l'ai pas trouvé, mettre les bouts. En tout cas, elle est très populaire et très connue. La plupart des Français la connaissent. Alors ici aussi, on voit le problème qui est pour vous un des problèmes principaux. C'est-à-dire que même si vous avez bien appris le français, même si vous avez beaucoup travaillé le français tel qu'on vous l'a appris dans des cours de français, eh bien, vous découvrez que vous ne connaissez pas la langue argotique. Et l'argot est d'ailleurs un mot général, mais il y a des argots, c'est-à-dire des langues plus ou moins populaires liées à des métiers, à des types d'activités. Donc on peut imaginer, vous pouvez imaginer que, par exemple, les métiers des halles, c'est-à-dire les fruits, légumes, viandes, etc., qu'on ramène de la campagne, de la ville, du port, enfin peu importe, créent tout un ensemble de vocabulaire qui est un type d'argot, et dans d'autres métiers, par exemple dans la métallurgie, la fabrication des matériaux, des bâtiments, etc., d'autres vocabulaires, d'autres mots d'argot. Et dans la ville de Paris, où tous ces métiers, finalement, travaillent les uns à côté des autres, un énorme mélange, brassage d'argot de tous les métiers et de différentes périodes. Alors que, par exemple, au bord de la mer, on va trouver un argot des pêcheurs. Dans une région de métallurgie, on va trouver un argot des métallos, et ainsi de suite. Hein, mais dans le mélange de Paris, tous les argots se trouvent mélangés. Et donc les Parisiens, en quelque sorte, propriétaires d'une énorme culture argotique qui est en quelque sorte dénigrée, rejetée hein, par les intellectuels, par les professeurs, par les académies, mais qui est une énorme puissance imaginaire, vivante, langagière, que des auteurs, des écrivains vont commencer à utiliser vers la fin du XIXe siècle, avec quelques auteurs populaires, mais peut-être le plus populaire avant que nous, c'est le livre de Céline, Voyage au bout de la nuit, dans lequel on va trouver le français populaire, beaucoup d'expressions d'argot, une façon d'écrire le roman avec beaucoup de parler, comme on le trouve ici. Donc il y a une relation directe entre le style de Céline dans Le Voyage au bout de la nuit et le style de Queneau dans d'autres livres, même avant Zazie, mais surtout dans Zazie, bien sûr. Alors, il y a d'autres auteurs hein, qui ont utilisé ce style populaire, argotique ou parlé, mais moins connu, moins célèbre. Par exemple, au milieu de la page 37, presque au milieu, dans le dialogue entre Marceline et Gabriel et Turandot, Gabriel et Marceline, donc, s'esclaffent, hein, ça veut dire « rit », il se moque un peu de Turandot. « Mais quand j'ai vu à un moment donné qu'il faisait plus attention à moi, j'ai filé. T'as eu les jetons ? T'as eu les jetons ? Avoir les jetons, ça veut dire avoir très peur. » Là aussi, une expression dont l'origine se perd. On ne sait pas exactement ce qu'elle veut dire. Alors il y a des livres, on peut en trouver à la médiathèque, quelques livres qui essayent d'expliquer des expressions en retrouvant une histoire ou en inventant une histoire, parfois. Un spécialiste qui s'appelle Claude Duneton a publié beaucoup de livres dans ce genre pour expliquer des expressions françaises. Donc je vous donne son nom. Claude Duneton, je pense qu'on en a deux ou trois ici, dans lesquels vous pouvez regarder, et vous allez retrouver des expressions que vous avez entendues, quelques-unes que vous connaissez parce qu'elles sont plus courantes, et puis des choses très amusantes, toujours très imagées, bien sûr. Alors le thème de la peur que Turandot a eue d'être pris pour un satyre, emmené à la police, jeté en prison. Hein, c'est très très grave, hein, l'accusation des enfants. Cette peur donne un nouveau thème dans la page 37, qui est en fait la réapparition, hein, du thème de la guerre et de la peur qu'on a eue pendant la guerre, avec les Fridolins, qui était donc un des noms qu'on donnait aux Allemands, ou un peu plus bas, dans le paragraphe suivant, les Frisous. Frisous ou également Frisés. Frisés, Frisous, Fridolins, il y a d'autres mots plus ou moins vulgaires pour désigner les Allemands, en particulier les nazis et les militaires, finalement. Parce que ce qu'on appelle les Allemands pendant la guerre en France, ce sont des militaires. Il y a très peu d'Allemands non militaires. Donc l'image qui s'est formée des Allemands à Paris pendant la guerre, c'est une image exclusivement militaire. Et s'il y a des Allemands extrêmement gentils, pacifiques, intelligents en Allemagne, on ne les connaît pas en France. Hein, donc c'est une image tout à fait déformée, bien entendu. On peut penser à l'image des Américains pour les Japonais après la Seconde Guerre mondiale. C'est pareil, hein, ce sont d'abord des militaires. Il faut attendre très longtemps avant que ça soit autre chose. Le thème de la peur est exploité dans cette page avec d'abord l'expression « avoir les jetons ». À la ligne suivante, « jamais eu une telle trouille de ma vie ». Avoir la trouille, également avoir très peur. Et dans le paragraphe suivant, juste après les Frisous, eux, ils avaient une pétoche monstre. Pétoche, un autre mot pour dire la peur. Pétoche monstre, ici l'adjectif monstre sert à augmenter encore en disant que les Allemands aussi avaient peur des bombardements, évidemment. Et les Allemands aussi couraient pour se réfugier dans les abris, les caves, hein, sous la terre, et avec l'expression ici, les coups au corps. Les coups au corps, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire courir vite avec les coudes. Ce sont les parties du bras, hein, qui se trouvent ici à l'articulation, les coudes. Les coups au corps, collés contre le corps, comme ça, pour courir plus vite. Alors, en fait, c'est quand on apprend à courir, hein, on dit garder les coudes au corps, garder les coudes au corps. C'est un vocabulaire un peu sportif. Les coudes au corps. Donc là, pour dire qu'ils couraient plus vite, hein, pour aller se réfugier. Alors, c'est Gabriel, hein, qui commente cet épisode de la guerre. Gabriel dit que lui, il n'a jamais eu peur des bombardements. Comme il était pro-anglais, il a pensé, avec une certaine naïveté, tout à fait honorable et assez extraordinaire, que les bombes ne seraient pas pour lui. Les bombes ne tomberaient pas sur lui parce qu'il est pro-anglais. Une bombe anglaise ou américaine ne peut pas tomber sur un ami. Bon, on sait que malheureusement, beaucoup de gens sont morts, tout en étant pro-anglais, pro-américain, pro-allié. Malheureusement, les bombes ne choisissent pas leurs victimes. Mais voilà, c'est la croyance de Gabriel, hein. Gabriel y croit, et d'ailleurs, il a survécu, donc il pense que c'est vrai. Et dans ce sens, l'attitude de Gabriel, à la fin du premier des deux paragraphes, hein, les Fridolins, puisque moi je les attendais à bras ouverts les Anglais. Je les attendais à bras ouverts, c'est-à-dire comme ça, hein, pour les accueillir en amis, à bras ouverts, et pendant ce temps, les Allemands couraient coude au corps. Hein, donc on a une sorte de figure d'opposition entre les bras ouverts et les coudes au corps. Ceux qui n'ont pas peur et ceux qui ont peur. Donc deux images différentes dans cette page. Juste après les coups au corps, on peut souligner la réutilisation encore du verbe se marrer. Je crois que quand on sortait la semaine dernière, quelqu'un m'a dit oui, pourquoi se marrer n'a qu'un seul R. Ben, c'est vrai que dans le dictionnaire, le verbe se marrer, rire, hein, s'amuser, a deux R. Mais si on regarde dans le TLF, hein, le trésor de la langue française, le gros dictionnaire, on voit que au XIXe siècle encore, les deux orthographes existaient déjà, un R et deux R. Donc, Queneau, qui s'amuse beaucoup hein, avec l'écriture des mots en français, parfois joue aussi à l'idée de simplifier, simplification. Deux R, c'est inutile, un seul, ça suffira. Moi, je me marrais, je restais dehors à regarder le feu d'artifice, Barry en plein dans le mille. Alors, Barry, ici, c'est tout à fait onomatopée. Ce mot n'existe pas dans le dictionnaire. On ne peut même pas lui trouver d'origine anglaise ou allemande ou italienne ou espagnole. Vraiment, c'est Barry, comme ça. Comme dans un manga, hein, où vous le mettez en katakana, c'est pareil. En plein dans le mille, hein, c'est-à-dire bien visé dans un dépôt de munitions qui explose. Plusieurs exemples, une gare, une usine, la ville, et c'est donc une sorte de progression là encore, progression vers de plus en plus grand, la ville qui flambe, et le dernier, un spectacle du tonnerre. Alors deux expressions dans ce paragraphe font encore une autre référence à Céline. J'ai parlé de Céline tout à l'heure pour le langage parlé, pour l'utilisation de l'argot. Ici, le spectacle du bombardement, qui quand même n'est pas vraiment un spectacle, au sens de gens qui font un spectacle, et trois lignes au-dessus, l'expression feu d'artifice. Feu d'artifice et spectacle. Alors bien sûr, le feu d'artifice, vous savez ce que c'est. Et les deux, feu d'artifice et spectacle, font penser à un livre de Céline qui s'intitule « Féerie pour une autre fois ». Dans lequel Céline, ou le narrateur, le personnage de Céline, plus ou moins lui-même, raconte en effet, en grande partie, les bombardements de Paris. Lui-même, le personnage, étant dans un immeuble près de Montmartre, dans un quartier en partie bombardé, et un épisode de ce livre, Féerie pour une autre fois, dans lequel l'immeuble est complètement bombardé et les personnages essayent de sortir, de passer dans des escaliers, enfin, pendant la destruction de l'immeuble due au bombardement. Et là, l'écriture de Céline est tout à fait extraordinaire. Il faut vraiment lire ça un jour. On est à la page 37. C'est un roman de 1952. 1952, donc on n'est pas très loin hein, de la période de publication de Zazie. Tout à l'heure, on a parlé de Voyage au bout de la nuit. Si je ne me trompe pas, ça doit être de 1932. Et puis donc ici, Féerie pour une autre fois, 52. Alors entre les deux, bien sûr, hein, il se passe beaucoup de choses pour l'écrivain qui se fait nommer Céline, hein, donc Louis Ferdinand Céline. En particulier, il écrit après Voyage au bout de la nuit, il écrit des livres fortement antisémites qui sont interdits, il est très critiqué, il est assez proche de milieux allemands, et pourtant il a toujours été anti-allemand, anti-anglais, c'est-à-dire xénophobe, anti-étranger en général, et plus ou moins anti-tout d'ailleurs, mais bon, c'est une autre histoire. Comme il avait donc un peu trop d'amis du côté allemand à la fin de la guerre, il était obligé de fuir aussi avec ceux qui s'enfuyaient en Allemagne jusqu'à Sigmaringen. Il a été arrêté, il a été en prison au Danemark, si je ne me trompe pas, et on a fait un procès dans lequel on a reconnu finalement qu'il n'était coupable de rien. Hein, c'est quelqu'un qui n'a rien fait contre un seul Français, rien fait contre un seul Juif pendant toute la guerre. Mais il a quand même écrit des livres fortement antisémites qui ont pu avoir une très mauvaise influence sur d'autres gens qui ont pu ensuite être des criminels contre les Juifs ou des criminels de guerre. Donc, il y a quand même un rôle assez mauvais. Mais il reste un grand écrivain et féerie pour une autre fois, tout à fait extraordinaire pour comprendre, ressentir cette ambiance de Paris pendant la guerre et de Paris bombardé, et Queneau ici fait directement allusion à cette situation. Alors ensuite, dans les pages suivantes, on essaye, page 38-39, de convaincre Gabriel qu'il doit sortir pour aller chercher Zazie. Et Gabriel n'a pas du tout envie. Alors, finalement, il accepte de sortir. Au milieu de la page 39, on a un nouveau détail de modernité à propos de Marceline, qui pourrait, elle aussi, sortir chercher Zazie. Mais elle répond... « J'ai ma lessive sur le feu. » Et Turandeau lui répond « Vous devriez donner votre linge au truc automatique américain. » C'est-à-dire des machines à laver dans des boutiques, pressing, ou bien avoir une machine à laver à la maison. Mais c'est encore trop moderne pour Marceline. Et les machines à laver ont commencé à exister, en effet, dans les années 1950. Donc, c'est tout à fait contemporain. Alors, ça crée un débat supplémentaire hein, entre Gabriel et Turandeau. Ce sont des machines américaines. Donc, est-ce qu'on est pro-américain ? Pro ou anti-américain ? C'est un grand sujet, hein, au Japon aussi. On peut imaginer l'importance de ce sujet. Et Gabriel conclut d'une façon extrêmement drôle, en bas de la page 39, 5 ou 6 lignes, au-dessus de la fin. Marceline et moi, non seulement on est américanophiles, mais en plus de ça, petite tête, et en même temps, tant en sa petite tête, en même temps, on est lessivophile. Hein ? Ça te la coupe, ça, petite tête. Alors, bien sûr, le mot lessivophile n'existe pas, mais sur le modèle de américanophile, tout le monde le comprend très bien. Hein, c'est celui qui aime bien faire la lessive lui-même. En même temps, jeu de mots, on continue à jouer avec les mots, Queneau touche à une autre expression qui est laver son linge sale en famille. Qu'est-ce que ça veut dire laver son linge sale en famille ? Ça veut dire tout le monde de la famille participe à un débat où on révèle les secrets, les choses sales, les choses criminelles que l'un ou l'autre a fait. On appelle ça laver son linge sale en famille. Mais ça veut dire aussi que ça ne sort pas de la famille. On ne raconte pas ces histoires aux autres qui ne sont pas de la famille. Donc on a le thème très connu des secrets de famille, le thème des révélations et le thème de la dispute à cause des secrets de famille, qui est donc l'expression « laver son linge sale en famille ». Sur ce jeu de mots, que nous rajoute encore à la dernière ligne la liquette ninque, celle qu'il n'est pas si facile de laver. Et là, vous avez une petite note, parce que c'est vraiment compliqué. On arrive dans le latin, hic et nunc, qui s'emploie couramment, donc, dans le sens de sur le champ, tout de suite, ici et maintenant, et peut donc désigner le problème concret et présent. Le problème concret, c'est la disparition de Zazie. Donc, revenons, s'il vous plaît, au sujet principal. Zazie a disparu. Le jeu de mots de Queneau, liquet ninc, utilise le mot liquet, qui est un mot vulgaire pour désigner la chemise. Vulgaire ou familier, disons. Pas vulgaire, familier. Et évidemment, ninc, qui ne veut rien dire. N'a absolument aucun sens. Sauf à jouer avec l'expression latine hic et nunc. Ça continue d'ailleurs un peu à la page 40. C'est un festival, c'est un feu d'artifice de jeux de mots qui continue. Avec la quatrième ligne, pour que je me fasse lyncher. Lyncher. Vous avez une petite note. Bien sûr, une francisation, une transformation en français du verbe lyncher. Alors, to lynch en anglais, qui signifie attraper quelqu'un, le condamner et le pendre sans jugement. Comme ça se faisait dans le Far West. On voit ça dans les films américains en général. Alors, pour que je me fasse lyncher par le vulgue homme Pécus. Comme s'il existait un homme qui s'appelait Pécus. Vous avez une autre petite note de ce Oyaji Gyagu. Je crois que pour les Japonais, c'est tout à fait regrettable de jouer avec les mots comme ça. Mais comme vous le savez déjà, les Français aiment beaucoup jouer avec les mots, aiment beaucoup ce que les Japonais appellent donc Oyaji Gyagu. Et ça m'a fait plaisir la semaine dernière, une étudiante qui a 20 ans, m'a dit qu'elle aimait bien les Oyaji Gyagu. Parce qu'en général, les jeunes, vous savez, prennent une distance. Non, nous on joue pas à ça, c'est pour les vieux, Oyaji. Bon. Mais de temps en temps, il y a des jeunes qui aiment bien ça. Bon. C'est un bon signe pour une étudiante qui fait du français. Parce que elle pourra s'entendre un peu mieux avec des Français, quoi. Sinon, c'est bon, d'accord, c'est pas le moment. Voilà. Le thème de la guerre va revenir en bas de la page 40 avec cette parodie de départ. Gabriel enfin a décidé de sortir. Il s'est habillé, il s'est préparé et il dit adieu. Adieu, lui dit-il avec gravité. Il a embrassé Marceline sur le front. Je m'en vais faire mon devoir. Évidemment, c'était l'expression que Turandot avait utilisée avant. Il serre vigoureusement la main de Turandot. Donc on a tous les clichés du départ à la guerre. Le départ à la guerre de celui qui ne sait pas s'il reviendra un jour. Bon, c'est une parodie tout à fait comique. Et ça se finit par la dernière ligne de la page, les autres se recueillent. Se recueillir, c'est-à-dire prendre une attitude de pensée destinée à celui qui va prendre des risques et mourir peut-être. Bon, le voilà dehors. Et on peut finir rapidement ce chapitre. Finalement, ça ne sert à rien parce que il arrive dehors et il tombe sur un nouveau personnage pour nous qui s'appelle Ridou et qui est donc le cordonnier avec sa boutique toujours ouverte. Gridou qui l'attire en lui disant « Bah oui, je l'ai vu partir, etc. » et fait croire à Gabriel qu'il a des choses à dire, des informations importantes. Et finalement, qu'est-ce qu'il a à dire ? Page 42. Simplement, comment ça s'appelle, ce qu'elle a fait, la petite Zazie ? Ça s'appelle une fugue. C'est tout ce qu'il a à dire. Il n'a pas d'information. Hein, il est ridicule. Bon, commentaire de Gabriel, donc une fugue. Commentaire, c'est gai, murmura Gabriel. Ici encore un jeu de mots, avec la fugue comme pièce musicale. C'est le nom d'un genre musical, la fugue. Et la fugue est généralement une pièce musicale amusante, joyeuse, gaie, précisément. Mais aussi, le sens imagé de fugue, c'est-à-dire la personne qui s'enfuit, l'enfant qui part volontairement, fait une fugue. Et la réponse de Gabriel, c'est gaie, ça a un autre sens. C'est une expression, lorsqu'on entend quelque chose qui est un peu gênant, un peu problématique, on dit « Ah ben c'est gai ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire que c'est drôle, hein, ou amusant. C'est le contraire. C'est une antiphrase. Ça veut dire que ça ne va pas être facile. Qu'est-ce qui va se passer ? On est bien embêté maintenant. Ah ben c'est gai. Ah ben c'est gai. Donc sur un ton quand même qui fait sentir un peu l'antiphrase. Alors bien sûr, tout le monde connaît l'antiphrase, hein, on s'amuse avec, quand il ne fait pas beau, on dit « Ah ben il fait beau aujourd'hui hein, », et on attend de l'autre hein, de s'amuser ensemble un petit peu. De ce mauvais temps. Bon, mais malheureusement, il pleut beaucoup. Aujourd'hui, ça va, c'est à peu près vrai, comme je le disais tout à l'heure. Voilà donc pour la fin du chapitre 3. Et lorsqu'on arrive au chapitre 4, donc on revient en arrière, on revient au moment où Zazie s'enfuit elle aussi du groupe, comme Turandot. Donc ça doit représenter une sorte de flashback de un quart d'heure, 20 minutes, hein, à peu près. Alors je vous lis le début de ce chapitre, parce que là encore, Zazie est seule, donc il n'y a pas de dialogue, donc on a une écriture narrative. Et assez intéressante, puisque c'est le véritable premier contact avec le métro. Comme concitoyen et commère continuaient à discuter le coup, Zazie s'éclipsa. Elle prit la première rue à droite, puis celle à gauche, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle arrive à l'une des portes de la ville. De superbes gratte-ciels de 4 ou 5 étages bordaient une somptueuse avenue sur le trottoir de laquelle se bousculaient de pouilleux éventaires. Une foule épaisse et mauve dégoulinait d'un peu partout. Une marchande de ballons la Mauricière, une musique de manège, ajoutaient leurs notes pudiques à la virulence de la démonstration. Émerveillée, Zazie mit quelque temps à s'apercevoir que, non loin d'elle, une œuvre de ferronnerie baroque plantée sur le trottoir se complétait de l'inscription « Métro ». Oubliant aussitôt le spectacle de la rue, Zazie s'approcha de la bouche, la sienne sèche d'émotion. Contournant à petits pas une balustrade protectrice, elle découvrit enfin l'entrée. Mais la grille était tirée. Une ardoise pendante portait à la craie une inscription que Zazie déchiffra sans peine. La grève continuait. Une odeur de poussière ferrugineuse et déshydratée montait doucement de l'abîme interdit. Navrée, Zazie se mit à pleurer. Elle y prit un si vif plaisir qu'elle alla s'asseoir sur un banc pour y larmoyer avec plus de confort. Au bout de peu de temps d'ailleurs, elle fut distraite de sa douleur par la perception d'une présence voisine. Elle attendit avec curiosité ce qui allait se produire. Il se produisit des mots émis par une voix masculine prenant son fausset, ces mots formant la phrase interrogative que voici. « Alors, mon enfant, on a un gros chagrin ?» Devant la stupide hypocrisie de cette question, Zazie doubla le volume de ses larmes. Tant de sanglots semblaient se presser dans sa poitrine qu'elle paraissait ne pas avoir le temps de les étrangler tous. « C'est si grave que ça » demanda-t-on.
« Oh oui, monsieur !»
Décidément, il était temps de voir la gueule qu'avait le satyre. Passant sur son visage une main qui transforma les torrents de pleurs en rue bourbeux, Zazie se tourna vers le type. Elle n'en put croire ses yeux. Il était affublé de grosses bacchantes noires, d'un melon, d'un pébroque et de larges tatanes. « C'est pas possible !» se disait Zazie avec sa petite voix intérieure. « C'est pas possible! C'est un acteur en vadrouille, un de l'ancien temps !» Elle en oubliait de rire. Lui fit une sorte de grimace aimable et tendit à l'enfant un mouchoir d'une étonnante propreté. Zazie s'en étant emparée, y déposa un peu de la crasse humide qui stagnait sur ses joues et compléta cette offrande par une morve copieuse. « Allons, voyons, » disait le type d'un ton encourageant. « Qu'est-ce qu'il y a? Tes parents te battent? Tu as perdu quelque chose et tu as peur qu'ils te grondent ?» Il en faisait des hypothèses. Zazie lui rendit son mouchoir très humidifié. L'autre ne manifesta nul dégoût en remettant cette ordure dans sa fouillouse. Il continuait. « Il faut tout me dire. N'aie pas peur. Tu peux avoir confiance en moi. « Pourquoi ?» demanda Zazie. Bredouillante et sournoise. Pourquoi ? Répéta le type déconcerté. Il se mit à racler l'asphalte avec son pébroque. Oui, dit Zazie, pourquoi que j'aurais confiance en vous ?
Mais, répondit le type en cessant de gratter le sol, parce que j'aime les enfants, les petites filles et les petits garçons.
Vous êtes un vieux salaud, oui.
« Absolument pas !» déclara le type avec une véhémence qui étonna Zazie.
Profitant de cet avantage, le monsieur lui offrit un caco-calo, là, au premier bistrot venu, en sous-entendant, en plein jour, devant tout le monde, une proposition bien honnête, quoi. Voilà donc cette rencontre entre Zazie et un personnage que l'on va voir pendant assez longtemps, personnage qui ne se présente pas, qui n'a pas de nom, qui n'est pas nommé par le narrateur, qui est mystérieux dans son apparence. Tout d'abord, il s'approche de l'enfant, donc je ne reviens pas sur le début du chapitre, et il va lui parler à la fin du paragraphe, page 44. Donc, une voix masculine prenant son fausset. Fausset, c'est une façon de poser sa voix en utilisant, pour un homme en particulier, les cordes vocales pour produire un son plus aigu.
Donc, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein, c'est
la voix de fausset. Alors, je n'ai pas une très belle voix de fausset, mais on sait qu'il y a des hommes dont le chant, chant choral, chant d'opéra aussi, sur une voix de fausset peut être très mélodieux, comme les voix de femmes, ou justement avec une petite différence très intéressante, sans parler de ce qu'on appelle les voix de castrat, qui sont encore plus aiguës et qui reposent sur une autre situation. Donc, une voix de fausset. Et il demande « Alors, mon enfant, on a un gros chagrin. » Bon, façon très banale d'entamer la conversation. La réponse de Zazie est en fait en deux temps. D'abord, dans un temps, elle répond à peu près normalement, et puis ensuite, elle regarde l'individu et elle le trouve tout à fait, je crois qu'on peut dire, caricatural. Caricatural, c'est-à-dire
ne ressemblant pas à un monsieur normal, à un monsieur quelconque, à un monsieur tout le monde, mais ressemblant à une caricature extrêmement bizarre, qu'elle essaye un peu d'identifier. Donc elle dit un acteur en vadrouille, un de l'ancien temps. Donc ça serait une sorte de costume d'acteur de l'ancien temps, avec quelques détails. Grosse bacchante noire, c'est-à-dire des grosses moustaches noires. Bacchante, c'est moustache. Donc, grosse moustache noire. Melon, c'est chapeau melon, donc un peu à l'anglaise. Pébroc, c'est un parapluie. Donc, le melon et le parapluie, ça fait penser un peu à une attitude, un costume anglais. Et de larges tatanes. Alors ça, ça veut dire des grosses chaussures très larges. Alors bon, l'ensemble fait penser à une sorte de Charlie Chaplin, hein, avec des moustaches, quoi. Et évidemment, Charlie Chaplin, c'est quelque chose qui date des années 30, principalement. Des années 30 et 40, dans les premiers films burlesques, hein, de Chaplin. Donc, en effet, de l'ancien temps. C'est ce que Zazie a pu voir dans des films. Bon, l'épisode du mouchoir dans lequel elle se mouche et où le narrateur, cette fois c'est pas Zazie qui est vulgaire, c'est pas l'autre personnage, c'est le narrateur. Le narrateur est vulgaire dans le sens où il développe le sujet, hein, de Zazie qui se mouche. Et donc en bas de la page 44, une façon un peu imagée, disons, elle dépose un peu de crasse humide qui stagnait sur ses joues et compléta cette offrande par une morve copieuse. Alors, la morve, c'est ce qui coule du nez quand on se mouche, et normalement l'adjectif copieux est utilisé dans un sens positif. C'est le omori du restaurant. Hein, vous en voulez plus, on vous en donne plus. Plus de riz, plus de ceci, plus de cela. Donc c'est le sens de copieux. Hein, c'est-à-dire être très bien servi au restaurant. Et on est content de ça. Alors évidemment, la morve, ce qui coule du nez, c'est pas positif. Et utilisé avec un adjectif positif, ça provoque un sens assez dégoûtant, assez désagréable. Hein. Alors, pour la deuxième fois, Zazie va, disons, utiliser le même scénario que tout à l'heure, c'est-à-dire celui qui l'arrête, celui qui vient vers elle, est un satyre. Mais elle savait que Turandot n'était pas un satyre, c'est le patron du café. Et ici, bon, bah, elle ne sait pas encore, mais ça veut dire aussi, comme on l'a déjà vu, que finalement, tout homme, n'importe quel homme, est en puissance un satyre. C'est sans doute ce qu'on a dit aux enfants. On leur a dit de s'en méfier. Alors on verra très bientôt que Zazie a peut-être des excuses. Alors je vous propose de nous en occuper tout de suite parce que ça nous permet de comprendre mieux la psychologie de Zazie. On va donc sauter par-dessus l'épisode de Blue Jeans au magasin des puces et on va arriver directement à ce qu'on pourrait appeler la confession. Confession, c'est-à-dire Zazie raconte son histoire familiale. Au début d'ailleurs, le lecteur aussi se demande, mais c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce qu'elle invente complètement cette histoire ? On peut se poser la question, hein, disons que pour l'instant, on va la croire. Alors, on arrive page 50-51. Qu'est-ce que tu veux, les deux, des moules, etc. Voilà. On donne à Zazie un demi-panaché, c'est-à-dire moitié bière, moitié limonade. Elle a très faim, elle mange bien ses moules, etc. Et elle arrive à une allusion en haut de la page 51, à propos du verre que ne boit pas assez vite l'individu qui est avec elle. Vous en mettez du temps pour écluser votre godet. Papa, lui, il en avalait 10 comme ça en autant de temps. C'est-à-dire, donc, papa buvait 10 fois plus vite. Il boit beaucoup, ton papa ? Il buvait, qu'il faut dire. Il est mort. Tu as été bien triste quand il est mort ? Pensez-vous, geste. Geste, c'est... Je m'en fous. Pensez-vous, j'ai pas eu le temps avec tout ce qui se passait. Silence. Tout ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passait ? Silence de suspense. Zazie veut créer le suspense chez son audience. Son audience, ici, c'est une personne. Et qu'est-ce qui se passait ? Je boirais bien un autre demi, mais pas panaché. Un vrai demi de vraie bière. Waouh ! Elle attaque, hein ? Le type commande pour elle, bon, etc. Alors, vous lisez les journaux ? Des fois. Vous vous souvenez de la couturière de Saint-Mauron ? Qui a fendu le crâne de son mari d'un coup de hache, eh bien, c'était maman. Et le mari, naturellement, c'était papa. Ah, dit le type. Vous vous en souvenez pas ? Il n'en a pas l'air très sûr, Zazie est indignée. Merde, pourtant, ça a fait assez de foin, assez de bruit, beaucoup de bruit dans les médias. Maman avait un avocat venu de Paris exprès, un célèbre, un qui cause pas. Comme vous et moi, un con, quoi. N'empêche qu'il l'a fait acquitter comme ça. On peut faire, hein. Ou alors, les doigts dans le nez. Les doigts dans le nez, expression typiquement française, ça veut dire que on n'a pas besoin d'utiliser les mains. Donc, les doigts dans le nez, hop, pas de problème, hein, une seule main. Conduire d'une seule main, les doigts dans le nez. Et puis, même que les gens, ils applaudissaient maman. Tout juste s'ils ne l'ont pas porté en triomphe. On a fait une fameuse foire ce jour-là. Il n'y avait qu'une chose qui chagrinait maman, c'est que le Parisien, l'avocat, il ne se faisait pas payer avec des rondelles de saucisson. Rondelles de saucisson, c'est pas cher, hein. Donc ça coûtait très cher. Alors, Georges était là. Qui était ce Georges ? Un charcutier, tout rose, le coquin de maman. Coquin est amusant, hein, parce que c'est un mot presque de Molière, hein. C'est pas un mot du vocabulaire de Zazie. C'est lui qui avait refilé la hache. Refilé, c'est-à-dire donné, hein, passé la hache pour couper son bois. Bon, légérien. Elle s'envoie une petite lampée de bière à distinction, tout juste si elle ne lève pas l'auriculaire. Alors, lever l'auriculaire, c'est le petit doigt, c'est-à-dire à la façon de la tasse de thé. À l'anglaise, hein, c'est tout à fait l'image que les Français ont des Anglais buvant leur thé avec le chic et le snob anglais. Donc, Zazie boit sa bière, mais pas comme quelqu'un qui boit sa bière comme ça. Non, très comme ça. Petite fille, hein, qui boit sa bière. J'ai déposé au procès et à huis clos encore. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à huis clos ? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'audience dans la salle du procès. Et pour un enfant, éventuellement, on peut le comprendre, pour éviter que l'image de l'enfant soit salie par la presse, par exemple. Hein. Le juge, la cour, va écouter un témoignage à huis clos. Il est même possible, d'ailleurs, qu'un procès tout entier soit à huis clos. Parce que il y a des choses trop désagréables, dégoûtantes, dangereuses, qu'on ne veut pas faire connaître. Alors, Zazie demande s'il le croit, bien sûr que non. C'est pas légal, un enfant qui dépose contre ses parents. Déposer, ça veut dire témoigner, être témoin dans un procès contre ses parents. Alors, je ne me suis pas posé la question, hein, franchement. Je ne me suis pas posé la question de savoir si c'était légal ou pas légal. Je crois qu'on peut laisser tomber. Et bon, voilà. Donc, beaucoup de... Aujourd'hui, on appelle ça du bruit médiatique, hein, autour de ce procès, c'est-à-dire du crime de sa mère, etc. Et on finit en quelque sorte par où on avait commencé, c'est-à-dire en haut de la page 53. C'était donc à propos de son père. Pourquoi sa mère a tué son père? Eh bien parce que il a voulu violer Zazie. Et je dis, on finit là où on avait commencé, c'est-à-dire avec cette allusion à la chanson dont on parlait la semaine dernière, la chanson Paillarde. Alors, qu'est-ce qu'il descendait comme litron, c'est-à-dire litre de vin, bien sûr, il buvait beaucoup. Quand il était dans ces états-là, fallait se garer de lui, parce que le chat lui-même y aurait passé. Comme dans la chanson, vous connaissez ? Bon, c'est un peu scandaleux hein, qu'une petite fille connaisse cette chanson. Et dans cette chanson, on met en scène, dans plusieurs couplets, hein, des individus donc tout à fait sous, qui veulent faire l'amour avec n'importe qui, et même avec le chat, et d'autres animaux, etc. Donc, vraiment, très très scandaleux, hein, bien sûr. Je vois, dit le type. Tant mieux, alors je continue, et maintenant Zazie va raconter en détail comment ça s'est passé ce jour-là. Donc on a un premier flashback.
Pour finir pour aujourd'hui, si on se met sur l'axe du temps qui passe, on est arrivé avec Turandot et Gabriel jusqu'à un certain moment, qui est un petit peu après la dispute dans la rue, hein, avec Turandot et Zazie. Bon, on est arrivé là. Alors, on reprend le chapitre 4, on revient à ce niveau ici. Hein, on commence le chapitre 4. Et Zazie raconte son histoire, et alors, pour raconter son histoire, on revient au procès. Alors là, le procès, c'est très loin, avant, hein, quelques mois ou un peu plus, bon, dans le temps. Si on va sur le même axe du temps, on va faire des pointillés comme ça, et au moment du procès. Une fois qu'elle a réussi à bien captiver l'attention du type avec elle, elle raconte, donc avant le procès, l'épisode du crime. C'est-à-dire, encore un petit peu avant, quand sa mère a tué son père, parce qu'il voulait la violer. Donc on a une sorte de premier, deuxième, troisième flashback. Donc ici, pour le début du chapitre 4, on revient un petit peu en arrière, et puis Zazie raconte un petit peu, donc un petit peu de temps qui passe, hein, et on retourne en arrière une fois, et encore une autre fois. Alors, dans la littérature, on est tout à fait habitué à ça. Maintenant aussi, dans le cinéma, hein, les films nous montrent des périodes du temps tout à fait différentes. Et on essaye d'avoir des petits détails qui permettent aux lecteurs, aux spectateurs, aux téléspectateurs, de savoir tout de suite dans quel temps on se trouve. Ou alors, de façon très rare, on laisse dans le flou, justement, on manque d'informations, on ne sait pas à quel moment du passé on se trouve. C'est le flashback sans position. Et donc on arrive au chapitre 5, où, de façon beaucoup plus concentrée, Zazie va raconter, comme presque comme... un chapitre séparé, un détaché, l'épisode tout à fait central de la tentative de viol et du crime. Voilà. Je vous propose qu'on y revienne un petit peu la semaine prochaine avant de passer à la suite. Ça va ? Une question ? Une ou deux questions rapidement ? Donc, ce que vous ne trouvez pas dans le dictionnaire, vous le soulignez. Et puis, si je n'en parle pas pendant le cours parce que j'ai pas le temps ou que j'oublie, vous pouvez le demander.
Très bien, on s'arrête là pour aujourd'hui. Bonne semaine et bonne lecture. Oui, alors allez-y. Ah, vuvure. Alors, je crois qu'on a une note là-dessus, non? C'est page combien? Eh oui, vous avez parlé de l'édition, oui. Je m'en rappelle. Ici, je crois qu'on a une note dans cette édition. Parce que justement, on dit que c'est le verbe susurrer, mais avec un V. Est-ce que quelqu'un a trouvé la note? Voilà, c'est en bas de la page 47. 47, pour nous. Il y a une petite note numéro 3 en bas. Oh, oui, vuvure, Zazie. Alors, en fait, c'est parce qu'elle dit oui. Oui, c'est souvent les enfants disent oui. Est-ce que tu veux? Oui. Et d'habitude, on utilise le verbe susurrer, qui veut dire parler en allongeant un petit peu. Susurrer. Et donc là, c'est forgé par Queneau sur le modèle de susurre par attraction hein, du V de vui. Donc le V de vui n'est pas susurré, il est vuvuré. Mais évidemment, ça n'existe pas dans le dictionnaire. On a sauté d'ailleurs dans cette page 47, hein, un peu au-dessus du vuvure. Il y avait, donc on y reviendra la semaine prochaine, quand Zazie voit les jeans, pantalons de blue jeans, hein, d'un seul coup, elle bouge plus du tout. Alors là, le mot est très beau, hein, elle bouge plus du tout. Et là, vous le comprenez, celui-là. Elle ne bouge plus du tout. Elle ne bouge plus du tout. Elle regarde les jeans. Ah ! Elle bouge plus. Elle bouge plus du tout. Elle est complètement immobilisée, pétrifiée devant le blue jeans. C'est ça qu'elle veut. Beaucoup plus que le caco-calo. Bien, à la semaine prochaine.